création on air. On air. On air. Creation on air.
Bonsoir. La nuit du 15 au 16 juillet 2016, une partie des forces armées turques tente de prendre le pouvoir à Ankara et Istanbul. Le président Erdogan fait aussitôt une intervention diffusée sur CNN et appelle tous les citoyens turcs à descendre sur les places et dans les aéroports en signe de soutien. Le lendemain, on apprend que la tentative de putsch a échoué. 290 personnes sont mortes et 1500 ont été blessées. La cinéaste Alice Fargier, qui a tissé de nombreux liens avec des jeunes stambouliotes, s'interroge sur la manière dont un tel événement a modifié cette nuit singulière où l'épouvante irriguait tous les échanges. Une certaine nuit d'été, Alice Fargier, Céline Terce, création On Air.
L'après-midi du 15 juillet, donc c'est le jour de notre mariage, rendez-vous à la mairie à 14h, je crois, 14h30. Donc il y avait des amis français qui étaient là, une dizaine d'amis français, ma mère, des amis de ma mère, et puis les parents de Bayram, certains de ses frères et sœurs, tous n'ont pas pu venir, mais une partie, les oncles, les tantes, parce qu'il a de la famille à Istanbul, donc... On était un joyeux petit groupe à la mairie, tous très heureux de se retrouver pour ce grand jour.
J'étais à Istanbul. J'étais juste en passage pour de quelques jours en Istanbul pour visiter mes parents. Et puis j'étais chez moi, chez la maison de mes parents, dans un quartier qui s'appelle Bostancı, donc un quartier pas dans le centre, mais pas loin du centre d'Istanbul. Je peux dire que c'était une journée comme les autres.
C'était la première fois qu'on allait prendre l'avion avec ma fille, qui avait donc à l'époque 6 mois. Et donc c'était la première fois qu'elle allait aller en Turquie, qu'elle allait rencontrer ses grands-parents, qu'elle allait prendre l'avion. Donc la journée a commencé d'une façon stressante pour nous, mais pas du tout pour les raisons qui ont ajouté une grosse dose de stress en fin de journée. On est arrivé en soirée à l'aéroport d'Istanbul. Donc puisque maintenant on a le luxe entre guillemets de voyager avec une petite fille, mon père est venu nous chercher à l'aéroport avec sa voiture. Et donc on est parti. Et c'est un peu après qu'on a commencé à voir un peu les nouvelles qui commençaient à tomber, quoi.
Le 15 au matin, j'étais à la maison, je préparais ma valise. C'est pour le festival international de danse à Autriche, Vienne. J'aide pour un séminaire, un symposium.
Tu devais rassembler toutes tes affaires, oui, je me souviens. Oui. C'était un moment où il y avait déjà beaucoup, beaucoup de choses à faire juste avant de partir, effectivement, juste avant de partir au festival. Moi, je me rappelle avoir eu des nouvelles peut-être le soir d'avant. Tu disais, oui, c'est ça, je suis en train de préparer ma valise, je rassemble mes affaires, mes livres. On était vraiment dans du quotidien de départ pour un mois d'été de travail, quoi.
Mais la nuit avant, j'ai écouté le TV qui dit les terroristes attaquent à Nice.
Le 15 juillet 2016, j'étais chez moi, à la maison, et j'habite tout près d'un club privé de haut standing, où il y avait le mariage, justement, le fameux mariage, où tous les généraux, y compris les commandants en chef des armées, de terre et de l'air et de la marine, étaient présents. C'était le mariage des enfants de militaires et tous les grands noms, les généraux, étaient là. Et ce club où se célébrait le mariage est à 500 mètres de chez moi.
Une certaine nuit d'été.
la journée du 15 juillet, tous les copains et les copines se retrouvent chez nous pour se préparer tous ensemble. Et puis, donc, on descend tous, on va à la mairie. Bayram et mon beau-frère viennent me chercher en voiture, alors que la mairie est juste en face de chez nous, pour le principe. Donc, on fait le tour en voiture, on arrive. Il y a la cérémonie qui commence et qui fait que, voilà, quoi, on est en train de se marier, quoi. Et il te demande si tu acceptes de prendre pour époux. Et donc là, tu dois dire oui. Donc tu dis « Evet !» Donc oui en turc. Et la tradition en Turquie, c'est que quand tu dis oui à la mairie, tu dois écraser le pied de ton mari. Ça porte chance. Donc du coup, bon, gentiment, hein, il ne s'agit pas non plus de lui massacrer le pied. Et ensuite, on est sortis. Et en fait, mes copains voulaient faire la tradition du lancer de riz. Et sauf que comme on était en Turquie, on s'est dit « Non, mais en fait, on va plutôt faire un lancer de boulgour. » Et ce qui était trop drôle, c'est que mon beau-père regarde par terre et dit « Ah bah non, mais ça va pas, mais pourquoi ? Attendez, mais c'est de la nourriture, il faut pas gâcher, qu'est-ce qui se passe ?» Et Bayram lui a dit « Mais non, t'inquiète, c'est pour la fertilité, c'est bon pour tout, c'est pour nous souhaiter bonne chance et tout. » Et du coup, dès qu'on a parlé tradition, il a dit « Ah bah ça va alors, ah bah c'est pas mal en fait, comme moi j'aime bien. » Donc on s'est changé et puis en fait on est parti dans le centre de Kadıköy, donc sur la rive asiatique, dans un petit café-bar qui est un peu notre QG où on fête tout le temps les anniversaires, enfin on fête tout là-bas. Et on avait préparé une grande tablée et on s'est tous assis là, surtout à célébrer quoi. Donc on a commencé à boire des bières, je sais pas, il devait être 16h30, on a commencé assez tôt hein, quand même, jusqu'à à peu près 22h. Jusqu'à ce qu'on se dise tous, un peu éméché quand même, parce que du coup, ça avait duré pas mal de temps. Bon, par contre, demain, c'est la grande soirée dans la salle. Donc, on va quand même, on vient déjà de passer une bonne partie de l'après-midi ici. Donc, il est temps de rentrer, qu'on se repose un peu, qu'on se remette d'aplomb, parce que demain, c'est le grand jour, quoi.
L'après-midi, j'ai nettoyé la maison et le réfrigérateur aussi. Pour 2 mois, voilà. All the house was empty.
Ah oui, oui. T'avais vidé la maison.
J'ai vidé la maison.
Oui, c'est vrai. Alors après, moi, j'y étais pas, mais je sais que c'était un moment depuis plusieurs années déjà. Tu fais ce festival à Vienne. Et c'est vrai que comme c'est un départ sur un mois, presque un mois et demi, entre Vienne, puis après, des fois, tu fais d'autres festivals. Donc c'était vraiment le moment où la maison était complètement fermée, il n'y avait plus rien. On mettait tout, c'est ça, on mettait toutes les plantes dehors, etc. Enfin, c'était vraiment un grand départ, alors pas en vacances pour travailler, mais comme un grand départ en vacances, quoi.
Après-midi, vers 18-19h de ce jour, on a décidé de se voir avec les amis que je n'ai pas vu depuis longtemps. On s'est dit, bon, on se retrouve dans le quartier qui s'appelle Beşiktaş, dans le côté européen. Du coup, j'ai pris le bateau pour y aller et on s'est retrouvés vers 20h30 à peu près. Et du coup, on était en train de boire un coup et discuter que une copine parmi nous, elle a dit qu'elle vient de regarder Facebook et qu'il y avait des gens qui disaient qu'il y avait des avions d'armée, il y avait des jets qui volaient sur Ankara. Et en ce moment-là, tout de suite, mes parents m'appelaient et ils m'ont dit « Zeynep, il se passe quelque chose, ça peut être un coup d'État, vu que leur expérience est plus... élevé que moi, ce sont des gens qui ont vécu le coup d'État, au moins le coup d'État de 80. Ils m'ont dit, viens tout de suite à la maison. Parce que si c'est un coup d'État, peut-être il y aura un couvre-feu. Tu risques peut-être de rester où tu es. Tu peux rester bloqué. Donc si tu veux, viens tout de suite à la maison. Mais nous, notre première réaction, c'était, non, On est en 2016, non, pas un coup d'État quand même, non, c'est sérieux, non, ça peut pas vraiment arriver. Non, non, non.
Tout commence justement quand on est dans la voiture, parce que il est 22h30 à peu près, je pense. Et bizarrement, il y a des bouchons, mais qui me paraissent, même pour un stambouliote comme moi, qui me paraissent surréels. 22h30, normalement, il n'y a plus de bouchons à Istanbul. Même si c'est chargé, il n'y a plus de bouchons, quoi. Et là, on est sorti de l'aéroport depuis une vingtaine de minutes et on n'avance pas. C'est incroyable. Et donc, on se dit, il y a sûrement un accident ou quelque chose. Et on est quand même dans un contexte où il y a eu beaucoup d'attentats. Donc, on se dit même peut-être que c'est sécuritaire, hein, on n'en sait rien. Et puis, il y a des messages qui commencent à tomber. Je me rappelle, le premier message, c'était... C'est une expression très courante en turc, à Istanbul, c'est les bouchons du pont. À savoir qu'il y a deux ponts sur le Bosphore à Istanbul, maintenant une troisième, il ne faut pas l'oublier malheureusement. Et donc c'est toujours au niveau du pont qu'il y a des bouchons, parce que ce sont les trois seules artères par lesquelles vous pouvez passer d'un côté à l'autre. Et donc surtout à l'heure de pointe, c'est un cauchemar que vivent tous les jours les Istanbuliotes. Mais à 22h30, les bouchons du pont, ça nous paraissait un peu loufoque. Et là, 5 minutes plus tard, un nouveau message, cette fois c'était de ma mère. Elle m'avait dit, il y a un coup d'État, où êtes-vous? Qu'est-ce qui se passe?
Et nous, on rentre chez nous avec donc Bayram, évidemment, un de ses frères et ma mère. Et donc, sur le chemin, mais à, je sais pas, 2 pas de la maison, un très bon ami de Bayram qui faisait le voyage de nuit depuis Ankara, la capitale, pour nous rejoindre le lendemain à Istanbul pour le mariage, l'appelle et lui dit... Écoute, je vais pas pouvoir venir, il se passe un truc, je crois qu'il y a un coup d'État. Et donc là, 22h30, nous on est trop heureux de notre journée. Bayram lui dit, non mais attends, dis-moi que ta mère est malade, que t'as eu un empêchement, mais me raconte pas ça juste pour pas venir au mariage, je t'en voudrais pas, tu vois, si t'as un empêchement. Et là, son copain un peu paniqué dit, non mais je te jure, moi je dois raccrocher parce que là il y a les militaires qui sont en train d'arriver. Rentrez vite chez vous et regardez les news, je rigole pas et puis en gros désolé pour vous les gars quoi. Donc là Bayram raccroche et puis il comprend que en fait son pote il est peut-être pas en train de rire du tout. Et on commence à essayer d'être sur nos téléphones à regarder, sauf que je sais pas ce qui s'était passé mais tout était bloqué, enfin dans les premières minutes du truc nous on n'avait pas du tout accès ni à Twitter, ni aux réseaux sociaux, enfin c'était hyper compliqué de comprendre ce qui était en train de se passer.
J'étais au téléphone avec mon meilleur ami et elle dit coup d'État. C'est blague, non, c'est pas vrai. Je ne pouvais pas imaginer que c'était vrai. Mais juste après, j'ai téléphoné mon papa. C'est vrai? Il dit oui, c'est vrai. Et c'est choc pour moi. j'ai dit. Qu'est-ce qui vient après pour papa? C'est quoi ça? Première pensée, est-ce que j'arriverai à voir mon Charlie encore? Parce que je ne sais pas si c'est possible pour avion demain. Je ne sais pas si c'est possible pour téléphoner, pour internet. Je ne sais pas quoi. C'est choc. C'est vrai.
Tu es coincé, tu es stuck.
Oui, oui, exactement. Mm. Je bouge pas. I couldn't move. Je suis paralysée. Oui, c'est vrai.
Et en fait, là, c'est la panique, mais totale. C'est-à-dire que déjà, tu as la déception. Parce que là, c'est un ascenseur émotionnel comme jamais. Tu viens de passer un des moments les plus beaux de ta vie avec tes potes, enfin t'es trop heureux. Tu rentres chez toi, t'apprends ça, là tu te dis non mais déjà pas aujourd'hui quoi. C'est un pays où il y a tout le temps de l'actu mais là aujourd'hui je me marie, ce week-end je me marie, donc non. T'es dans le déni, tu veux pas. Et puis après faut quand même tout de suite penser que t'as quand même des invités qui parlent pas de turc, qui connaissent pas le pays. Donc t'envoies un message à tout le monde, en l'occurrence là je les ai appelés parce que sur le bateau, ils n'avaient pas internet, donc le message WhatsApp, ils ne l'auraient pas vu. En leur disant, bon, bah, les gars, je ne sais pas où vous êtes et ce que vous avez prévu de faire, mais vous rentrez tout de suite chez vous. Enfin, c'est-à-dire, vous ne vous perdez pas dans les rues, vous y allez fissa parce qu'il est en train de se passer un truc. Je vous rappelle, enfin, je ne sais plus trop comment je leur ai annoncé le truc, mais je leur ai fait bien peur, en fait. Moi, j'étais tellement dépitée que, et en fait, moi, en rentrant à l'appart, le seul truc que je trouvais faire, c'est « Ah, il y a une tentative de coup d'État ?» Vas-y, j'ouvre ma bière, je suis au bout du... Et là, il y a Bayram qui me stoppe en disant « Non, mais t'es sérieuse, là ?» Ok, oui, non, peut-être, c'est peut-être pas une bonne idée. Mais sur le moment, si tu veux, j'avais juste envie de m'asseoir et de me dire « Vas-y, bah, je m'en envoie une autre, parce que là, c'est juste pas possible, quoi. » Et bon, finalement, j'ai pas bu la bière, parce que déjà, on avait déjà bu assez de bière et qu'il fallait que je reste concentrée sur ce qui était en train de se passer. Et là, il y a mon beau-frère qui dit « Je redescends, je vais acheter des oignons et des pommes de terre. » Et là, je le regarde, je me dis « Il est sérieux, lui ? Mais qu'est-ce qui se... Mais quoi ?»
Et enfin, j'ai décidé de partir. Mais vu que le pont est bloqué, la seule option, c'est de prendre le bateau qui va à Üsküdar. Et quand je suis arrivée, il y avait beaucoup de monde qui voulait aussi prendre ce bateau pour passer côté asiatique. Et du coup, j'ai pris le bateau. Tout le monde était en téléphone. Quand le bateau passe de Beşiktaş à Üsküdar, du coup, on passe à gauche, on voit le pont de Bosporus. Et du coup, je regardais, ok, il n'y avait aucun trafic, c'était bien bloqué. Tout le monde était en téléphone, en train d'appeler les gens, essayer de savoir plus. Et du coup, il y avait des mots, coup d'état, qui commençaient déjà d'être prononcés par tout le monde, donc il y avait une certaine inquiétude très très visible.
L'aéroport est du côté européen ainsi que la maison de mon père. Donc je me rappelle pas du trajet, je me rappelle juste qu'il y avait énormément de bouchons et puis on est quand même arrivé à un moment donné et que de toute façon pendant tout le trajet on était sur un téléphone en train de discuter, essayer de comprendre ce qui se passait. À chaque fois on avait une nouvelle information et donc c'était très bizarre. À peu près dès l'arrivée, mon téléphone avait déjà commencé à sonner parce que du coup il y avait des journalistes français qui essayaient de me contacter et donc j'étais un peu embêté parce que j'avais strictement rien à dire. Et en Turquie on est quand même relativement expérimenté en matière de coup d'état. Donc moi je suis né en 83, c'est-à-dire 3 ans après le dernier coup d'état qu'on avait connu, mais on a quand même tous cet imaginaire du coup d'état, de comment ça se passe, etc. Si vous rencontrez les enfants des grandes villes turques qui sont nés après 1980, vous verrez que c'est une génération extrêmement apolitique ou dépolitisée même, parce que ils sont souvent issus d'un milieu soit qui était déjà pas très engagé politiquement avant, soit qui étaient tellement engagés qu'ils ont subi très durement les événements après le coup d'État. Donc souvent, nos parents nous ont élevés exprès de façon à nous tenir à l'écart de la politique. Et puis la Turquie, elle ne date pas de ce régime, a un passé extrêmement répressif. Et chez nous, on ne manifestait pas le 1er mai parce qu'on savait qu'on allait se faire tabasser par la police. Donc ma génération qui a donc grandi dans les années 80, on y était tenu très à l'écart de la politique.
Les gens de ma génération, nous avons connu tous les coups d'État, tous les régimes, etc. Les soubresauts, la démocratie, nous avons tout connu. Ceux qui sont nés dans les années 80, ils n'ont pas la chance d'être aussi politisés et aussi, je dirais, informés que nous, parce qu'ils ont été élevés apolitiquement parlant. Ils ne savent pas mettre des mots sur les choses.
Et donc quand on a appris que c'était une tentative de coup d'État, donc militaire, l'armée contre, et ce sont les informations qui nous parvenaient, quoi, l'armée contre le gouvernement, avec notamment l'ennemi public numéro un déclaré par Erdogan depuis plusieurs années maintenant, le mouvement Gulen, qui donc était infiltré à l'armée. Donc ce serait ses fidèles à lui qui se seraient donc soulevés contre le régime d'Erdogan. C'est probablement vrai, en tout cas partiellement, je pense. Donc en tout cas, ça n'avait rien à voir avec ni un soulèvement populaire, ni une manifestation populaire, etc. En tout cas, je me rappelle très vite avoir pris conscience d'une chose, et je pense que c'était tout à fait justifié. Je sais que je n'étais pas le seul, on était très nombreux à penser la même chose. Très vite, on a compris qu'il n'y avait aucune issue positive pour nous de cette situation. Ni un échec de ce coup d'État, ni sa réussite n'aurait fait avancer les droits des peuples de Turquie, la cause démocratique, etc. Parce que c'était évident que d'un côté, il y avait un coup d'État militaire qui était probablement donc fomenté par une personne qui est toujours très opaque. Hein. En France, on ne connaît pas beaucoup de choses sur Fethullah Gulen, mais c'est une espèce de chef spirituel d'un mouvement politico, religieux et économique, et très puissant et très infiltré dans énormément de choses. Et donc dans tous les cas, ça n'aurait pas été un événement plus heureux si ce coup d'État avait réussi. C'était évident assez vite que c'était un événement malheureux qui s'abattait sur la Turquie.
Sevgili seyirciler, bu metnin tüm Türkiye Cumhuriyeti kanallarında yayımlanması Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir emridir. Türkiye Cumhuriyeti'nin değerli vatandaşları. Sistematik bir şekilde sürdürülen anayasa ve kanun ihlalleri, devletin temel nitelikleri ve hayati
comme dans les anciens temps, un bulletin que les forces armées prenaient le pouvoir en main sur une chaîne télévisée d'État. Par contre, nous nous sommes beaucoup étonnés parce que j'étais en communication téléphonique avec tous mes copains et collègues, bien sûr, qu'un coup d'État militaire ne se fait pas comme ça. Parce que à l'époque où les coups d'État militaire étaient annoncés à la télévision, il n'y avait qu'une seule télévision, tandis que maintenant il y a 365 chaînes. Et ce serait vraiment très, comment dire, insensé de penser que les militaires ne savent pas qu'en prenant une seule chaîne de télévision en main, qu'ils peuvent diffuser tout en Turquie. Donc on s'est dit, qu'est-ce que c'est que ça? Parce que c'est pas l'armée, si c'était l'armée, il aurait pris justement l'émission satellite et coupé toutes les chaînes. Ça n'a pas été fait.
Quand je commençais à marcher vers la profondeur de Üsküdar, et enfin je marchais un peu plus, et là les gens commençaient déjà à être plus stressés. Par exemple, un groupe de femmes de 4-5 personnes avec des hommes en voile, elles marchaient devant moi, elles étaient super stressées. Elles avaient super peur. Elles disaient, non, si c'est un coup d'État, qu'est-ce qu'on va faire? Elles voulaient rentrer chez eux immédiatement. Tout le monde voulait rentrer chez eux immédiatement. Et en ce moment-là, le seul endroit où je pouvais trouver, c'était un Burger King qui venait de fermer, mais c'était encore ouvert. Donc je suis rentrée, je leur ai demandé, est-ce que je peux utiliser votre toilette? Ok, je suis montée. Et quand j'étais en toilette, j'ai entendu une femme rentrer et elle disait à une autre copine à elle qu'il y a les tanks de l'armée qui ont bloqué la rue quelque part en Üsküdar. Et là, je me suis dit, oh, ok, super, d'accord. Du coup, elle était dépêche-toi, elle disait sa copine. Donc, je suis sortie. Ils m'ont dit, ok, on va fermer parce qu'il y a les tanks. Essayez de vous aussi rentrer. chez vous. J'étais super, d'accord. Inch'Allah, je vais rentrer. Et puis, je continuais à marcher. J'ai acheté au cas où quelques bouteilles d'eau, quelques petites choses à manger dans un petit kiosque qui n'était pas fermé, des mouchoirs, tout ce que je pourrais, en me disant si je n'arrive pas à trouver une quelque part pour à rentrer, peut-être il y a un parc à côté du mosquée. Peut-être je me squatte là-bas. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire pour l'arriver? Si c'est un coup d'état, ils ne vont pas venir me couper la tête. Donc tant que je ne peux rien faire d'autre, peut-être je vais rentrer dans une mosquée. Et parce qu'il n'y avait aucune taxi aussi, rien, pas de moyen de bouger.
Premièrement, distributeur automatique, tu retires autant d'argent que possible. Et tu voyais les gens arriver petit à petit pour faire la même chose. Et nous, on a eu de la chance en fait de le faire très vite. C'est-à-dire, on est vite monté à la maison, vite sorti, parce que tu repassais 2 heures après, il n'y avait plus d'argent dans les distributeurs automatiques tellement tout le monde s'était rué dessus. Et puis, ce qu'ils font après ça, c'est d'aller dans les épiceries. Et en fait, là, tout le monde s'est rué dans ces petites épiceries pour aller chercher des fruits secs, des amandes, des pommes de terre, des oignons, des féculents, enfin tout ce qui pourrait te permettre, en fait, de rester chez toi quelques jours et sans sortir, quoi. Et en fait, au moment où Bayram était en train de justement d'acheter toutes ces petites choses, juste en face, il y avait un café qui était encore ouvert et où il y avait un écran de télé, en fait. Et c'est pile à ce moment-là qu'on voit le président Erdogan parler en FaceTime, quoi. Et là, je me souviens d'être dans la rue, de regarder l'écran et de bugger. Enfin, c'est-à-dire que j'avais l'impression qu'il n'y avait plus que moi et l'écran et que tout ce qu'il y avait autour... Et je crois qu'en fait, les gens autour de moi étaient pareils. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment de pause où... Enfin, c'est comme si on était vraiment sur pause, quoi. Plus personne ne bouge.
Alo.
Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım, dinliyoruz biz sizi.
Ha, iyi akşamlar.
İyi akşamlar efendim, buyurun.
Alo. İyi akşamlar. Alo. Tabii bugünkü bu gelişme gerçekten silahlı kuvvetlerimizin içerisindeki bir azınlığın ne yazık ki kalkınma
Par hasard, j'ai trouvé vraiment un taxi. Et je vous assure, il y avait au moins 5 personnes qui voulaient prendre le même taxi. Ils étaient, est-ce que vous allez où? Est-ce que vous allez à Ümraniye? Ümraniye, c'est un quartier super loin en plus. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait après. On a pris le taxi. Ok, je suis dans le taxi. Il y a assez de rues avec des montées. On descend, on monte. Et puis, on arrive au bout d'une rue. Et je tourne ma tête comme ça et c'est en montée et je vois des gens dans les rues qui sont sortis de chez eux et qui regardent vers le haut. Et je regarde vers le haut et j'étais oh là là, et il y avait un tank de l'armée qui était au bout de la rue. Du coup, je me suis dit ok, monsieur, on tourne à gauche parce qu'à droite, il n'y a pas quelque chose de bon qui nous attend. Du coup, on a tourné à gauche et puis on a pris quelques autres rues. On est arrivé à un moment où on doit sortir de ce quartier. Et là, il y avait des militaires qui avaient bloqué la rue. Ils arrêtaient les voitures. Et heureusement, ils nous ont fait passer. Et là, en ce moment-là, déjà, il y avait quelques voitures. Et les gens, ils avaient sorti de leur voiture et en train de leur dire... Et vous ne pouvez pas faire ça, c'est un pays où il y a de la démocratie, laissez-nous passer, qu'est-ce que vous pensez que vous faites, etc. Il y avait des gens qui donnaient déjà des réactions.
Comme je disais, ça ne ressemblait pas vraiment à un coup d'État quelque part. Donc, c'est très difficile à expliquer pourquoi, mais... Parce que les cibles qu'ils avaient choisies étaient... Enfin, je ne suis pas spécialiste de coups d'État comme ça non plus. Hein, je ne sais pas... je ne suis pas stratège. Mais tout paraissait décousu, tout paraissait peu préparé. C'était sûrement vrai, mais c'était précipité. Peut-être qu'il y a quelque chose, d'ailleurs, ça fait partie des scénarios les plus plausibles, peut-être qu'il y avait un coup d'État qui était en préparation et qui a, pour une raison ou une autre, dû se précipiter, qui a peut-être, dont on a avancé la date, en tout cas, parce que ça faisait vraiment peu préparé. Mais un des moments les plus loufoques de cette soirée, on voit Erdogan à la télé, en direct, sur un plateau télévisé, sur le téléphone portable de la présentatrice, sur son iPhone, parce qu'il s'est connecté par FaceTime, pour dire, c'est une tentative de coup d'État, mais nous maîtrisons la situation, ne vous inquiétez pas, je vais arriver bientôt. Et là, donc, le tournant majeur de toute cette histoire, dont on a énormément débattu, et encore aujourd'hui on peut en débattre, son fameux appel à tous ses fidèles à prendre les rues. Yapmış oldukları işgali de çok kısa zamanda ortadan kaldıracağımıza
After the tank commander fires his gun, the people leap up onto the tank and they're shouting at the tank commander, insulting him. They then continue to clamber all over the tank.
Dans la nuit, en suivant les chaînes de télévision, nous avons vu Erdogan lui-même qui parlait à partir d'un avion. Il était dans un avion qui parlait via un téléphone portable sur FaceTime d'un iPad à une journaliste et qu'il appelait le peuple dans la rue pour faire barrage à l'armée. Et c'est ce qui s'est passé. On dirait que tous ces gens-là, cette foule, n'attendaient qu'un seul ordre pour descendre dans la rue. Et ils ont été à des points précis, comme s'il y avait, si c'était programmé, à des points précis, là où il y avait justement le soulèvement, dit-on, et sur le pont du Bosphore, il y a eu des morts, vraiment des morts, du côté des soldats et du côté des civils aussi. Et par la suite, nous avons su que ces civils qui ont été appelés dans la rue avaient coupé la tête de plusieurs soldats, ce qu'on nous a caché pendant des mois.
Ce qui est quand même assez déstabilisant, parce qu'il y a cette personne qui pousse des civils à se jeter devant des militaires qui sont en train de fomenter un coup d'État. Donc déjà, juridiquement, je ne suis pas... Je ne me prononcerai pas sur le fait que est-ce que c'est ni stratégiquement ni juridiquement, c'est pas l'aspect qui m'intéresse en fait. On en parlera pendant des années encore de ça. Mais en tout cas, ce qui est évident, c'est que ça a provoqué le tournant, en tout cas à mon avis moral, de ce qui se passait, de ce qui était déjà bizarre. Hein. Parce que effectivement, ces gens, par milliers, qui se sont donc automatiquement investis dans le rôle de milice. Gardiens de la République d'Erdogan. Ils ne sont pas gardiens de la République, ils sont gardiens d'Erdogan. Donc ils sont descendus effectivement dans la rue, ils sont allés sur le pont du Bosphore, donc tenus par des chars, etc. Et ils ont attaqué, dans un certain moment, ils ont attaqué les militaires, et là on a assisté quand même à des scènes très très violentes, avec des soldats qui se sont fait égorger, fouetter, torturés par la foule de fidèles d'Erdogan. Donc là, je pense vraiment que les pièces du puzzle étaient en train de se mettre en place, en tout cas sur le fait qu'il n'y a pas d'issue positive. À chaque étape, je me rappelle, on se disait ça. C'est une catastrophe.
Des militaires occupaient radio nationale. Après, le police attaque le militaire pour récupérer le building de radio. Et c'est juste dans notre quartier. Les vitres, les murs tremblent beaucoup, beaucoup après une heure et demie du matin. Mais ces premiers temps, pour moi, j'ai vraiment peur. Je pense, avant, je suis très forte, j'ai fait first aid, j'ai social action, etc., etc., dans le jour. Mais à ce moment, j'ai très, très peur. Je suis seule là-bas. Charlie n'est pas ici, mon famille n'est pas là-bas. Et j'ai rien dans la maison, nos l'eau, nos pain, rien. Je pense, ah, d'accord, c'est fini. c'est fini, c'est quoi ça? Pour moi, l'aide arrive avec Facebook parce que l'Internet marche. J'ai mon téléphone et dans le Facebook, j'ai commence à écrire « J'ai peur, ça va mon ami, etc. etc. » We are living it together.
Non, on vit ça ensemble.
Non, on vit ça ensemble. So c'est beaucoup d'aide pour moi. Jusqu'à 3 heures, 4 heures, j'ai peur, je me cache derrière mon lit. Parce que le vitre, c'est distant. Je ne sais pas si c'est craqué ou non. C'est très, très lourd. Mm. Voilà. Et après, j'ai fait micro-sommeil pour le moment. Mais c'est trauma pour moi. J'ai réveillé avec le son de bombe. Mais en ce moment, je dis, j'ai morte. C'est fini. Oui, peut-être, c'est fini.
Il y a mon frère qui m'a appelé. Il me dit, je vais venir te chercher en voiture. Et je dois préciser que un petit appareil qui a vraiment quand même sauvé ma peau ce soir, c'était heureusement mon charge était en train de mourir, le batterie de mon téléphone. Et heureusement, j'avais ce petit extra batterie avec moi. Parce que je crois que s'il n'y avait pas ça, je ne sais pas comment je pourrais... là, quand je pense à ça, je me dis, ouf, genre, c'était, heureusement, j'avais ça. Et peu après... On a commencé à entendre les salats, donc les prières qui viennent des mosquées. Et c'était un sentiment assez étouffant pour moi, parce que c'était quelque chose qu'on n'a jamais entendu. Et ils ont continué vraiment jusqu'à très très tard du matin. Et en ce moment... très peu après le salat, les prières ont commencé. On a entendu les gens marcher pas loin avec Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar comme ça. Et je me suis dit, alors c'est quoi, qui sont ces gens? Est-ce qu'ils viennent pour couper notre tête aussi? Genre, c'est quel type de coupe d'état? Genre, qu'est-ce qui se passe en fait? Qui, on sait rien sur le contenu.
Around 2 o'clock, le mosquée, le muezzin, chante prie et après il fait lecture. Et il demandait aux gens de sortir dans la rue pour combattre les militaires. Mais je pense, moi, combattre un militaire, pourquoi? C'est très bizarre, c'est Twilight Zone.
Donc quasi en permanence, dans la ville, on entendait des avions qui passaient et donc les imams qui prenaient donc ouvertement position derrière le président et qui encourageaient les gens à descendre dans les rues. ma fille a dormi quand même, nous non. Et c'est là où c'était devenu, je pense, pour ma femme, pour moi aussi, mais imaginez pour ma femme, encore plus inquiétant, parce que là, du coup, elle se retrouve dans une espèce de contexte total de guerre civile, avec sur fond de d'imams qui demandent au peuple descendant à l'heure, avec des avions de chasse qui passent, des images de l'assemblée bombardée, avec un président répressif qui demande donc au peuple de descendre, etc. Et là, c'était inquiétant. Mais en même temps, du coup, ça paraissait assez évident que ceux qui avaient été tentés avaient échoué et qu'il y aurait sûrement des conséquences. Mais par contre, l'aspect vraiment stratégique allait se terminer dans la nuit, quoi.
À un moment, on s'est endormi, les bruits se sont un peu calmés, et je me suis endormie, to my surprise. Et je me suis réveillée avec un bruit d'une explosion, je crois que c'était 4 heures du matin. J'ai fait avoir une crise cardiaque, hein. J'avais mon cœur qui explosait, parce que c'était un son boum comme ça, toutes les murs, toutes les fenêtres tremblent. Du coup, on s'est tous pris refuge derrière un canapé comme ça. On s'est éloigné des fenêtres. On s'est dit, oh tiens, c'était quoi? Et en effet, c'était un avion, aussi une jet, qui passe le mur de son. Ça fait une explosion énorme.
Ateş çıkmadı.
Et là, en fait, il y a eu le fameux avion là, le mur du son, ce bruit qui a retenti dans tout Istanbul et où en fait, ça ressemblait à des bombardements. Et comme on savait pas du tout ce qui se passait, on s'est dit mais c'est pas possible, ils sont en train de bombarder la ville ou quoi. Enfin, donc une première fois. En plus, nous, notre appart, il est au dernier étage. Et du coup, je me suis dit, est-ce qu'il y a une cave en bas? Est-ce qu'il faut qu'on descende? C'était indescriptible, le bruit. Ça te résonne jusqu'au creux de ton corps, quoi. Donc, il y avait Bayram qui me tenait la main en train de me dire, respire, ça va aller. Et moi, je ne contrôlais plus du tout mon corps. Le truc le plus violent de toute cette nuit, c'était ce bruit. J'ai pas pensé que j'allais mourir. Mais j'étais paniquée parce que j'ai pas du tout compris ce qui était en train de se passer. Et j'ai plus d'air, quoi. J'arrive plus à prendre d'air. Je pleure. Je pleure beaucoup. Et en fait, comme il y a eu plusieurs bruits d'affilée, je crois que je me tiens les cheveux comme ça. Et je me dis, mais stop, stop. Je me bouche les oreilles. Je me roule en boule et je me dis, mais... Il faut que ce son précisément là s'arrête parce que je suis en train de faire une crise de nerfs, quoi. C'était donc je me contracte et en même temps je respire plus. Et Bayram me tient la main et donc je me suis calmée.
Et après, on a entendu un hélicoptère, justement, à 500 mètres de ce club, qui essayait d'atterrir. Cet hélicoptère a essayé d'atterrir trois fois. Et il y a eu des coups de tirs de mitraillettes en l'air. Et les invités, avec des grandes robes de soirée, des smoking, etc., qui se dispersaient du club dans un état lamentable. Et j'ai compris qu'il se passait quelque chose. Après, on a su qu'on avait justement cet hélicoptère dont on avait entendu l'atterrissage et le tir en l'air. Les soldats étaient venus pour chercher les trois généraux très importants à ce club. Ils ont été arrêtés à ce club. et puis portée on ne sait où. Nous ne savons d'ailleurs toujours pas où ont été amenés ces généraux, qu'est-ce qui leur est arrivé. On a vu leurs photos simplement avec des visages ensemble. Personnellement, j'ai pas eu peur. Je me suis même amusée parce que je savais que tout était un leurre. Mais par contre, je connais des jeunes gens dans le quartier et qui ont fait des cauchemars et qui ont eu besoin de soutien psychologique pour pouvoir surmonter l'épreuve. Car vers les casernes, par exemple, que les partisans du pouvoir ont bloqué avec des camions poubelles, etc., pour que les soldats ne sortent pas de leur caserne. Il y a eu des échanges de tirs. Et s'il y a vraiment, si je me trompe, s'il y a eu vraiment une tentative de putsch, ça a été plutôt, empêché par des militaires eux-mêmes. Des militaires qui ne voulaient pas de ce putsch. Parce que l'armée turque, si elle est dirigée vers un putsch en bloc, on ne peut pas l'arrêter. C'est une grande armée. 600 000 personnes sous les armes, quand même. C'est une minorité dans l'armée qui a essayé de faire ce putsch et ils n'ont pas réussi parce que c'était une minorité. Et ils sont en train de juger plusieurs généraux, plusieurs soldats, plusieurs officiers. Ils ont débauché des milliers de gens. Il y a 140 000 fonctionnaires qui ont été débauchés, etc. Mais les procès continuent. Ils continuent à nier en disant qu'ils n'ont pas été putschistes, etc. Alors, nous sommes dans un flou total. Et moi qui connais comment on fait un putsch, je dis que ce n'est pas un putsch. Je sais que les putsch ne se font pas comme ça. J'ai vécu 2-3 putsch, moi. En 80, j'avais 30 ans, je crois. J'ai vu comment ça s'est passé. 71 aussi. J'avais, dans les environs de 19 ans, etc. J'ai vu comment ça s'est passé. En une nuit, ils nous ont donné l'ordre de nous enfermer à la maison et ils ont fouillé chaque maison, chaque appartement. Sont capables de faire ça. En 71, j'ai eu peur et en 80 aussi. Très peur. D'ailleurs, mon père en est mort un peu à cause du coup d'état de 80. De chagrin.
Au réveil, il fallait forcément amener ma fille chez mes grands-parents qui ne l'avaient pas encore vue. Donc ça ne pouvait pas être reporté même en cas de coup d'état apparemment. Et donc nous on attendait un taxi pour aller nous rendre chez mes grands-parents. Et je discutais avec le monsieur. Et il m'a dit que lui il était sorti au petit matin par curiosité et qui a marché jusqu'au carrefour d'une grande avenue pas loin de chez nous. Et que là il a eu des taches de sang, des restes d'une sorte d'affrontement, on ne sait pas entre qui et qui. Il y avait une chaussure par là, un peu de sang par-ci, des bouteilles cassées. C'est là où vraiment concrètement on se dit, ah, c'était pas très loin quand même. Je pense que c'était vraiment très ponctuel, mais je sais que l'ambiance est tellement tendue de toute façon, même avant ce coup d'État, que des partisans d'Erdogan qui sont plus ou moins armés terrorise pas mal de gens, même hors contexte de coup d'État. Donc on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Mais justement, quand on parle de guerre civile, au-delà du contexte de la question kurde, ça me met toujours très mal à l'aise, parce que si on peut parler d'une guerre civile en Turquie, on ne pourrait parler que d'un massacre, parce qu'un des deux camps à ce soi-disant affrontement n'est pas armé, et n'aurait jamais eu même l'idée de faire recours à la violence. Alors qu'un autre côté, en face, il y a quand même un camp qui montre, encore une fois, à tort ou à raison, qu'il n'hésite pas à casser la gueule à quelqu'un qui aurait insulté le président, à trancher la gorge d'un soldat, etc. Donc, ça me met très mal à l'aise quand on dit qu'il y a une situation, des conditions en tout cas de guerre civile en Turquie. Parce que ce ne sera pas une guerre. La guerre, c'est entre deux camps opposés qui s'affrontent avec les armes. Là, il y en a un qui n'est pas du tout dans cette perspective-là. Aramıza girmiş dağlar denizler gelemem diyorum öf öf sen gel diyorsun kar yağmış yollara örtülmüş izler les gens sortent les gens s'amusent mais les gens ne parlent plus. Et ne parle plus de la politique et ne prononce aucun mot, aucun nom de la politique. Dans tous les taxis, ils veulent installer des caméras qui sont liées directement à la grande mairie d'Istanbul. Nous sommes surveillés de partout, donc personne ne parle, y compris dans les transports publics. Nous sommes surveillés sur téléphone. Ce téléphone, par exemple, est sur écoute. Je prends le risque. Mon téléphone portable est sur écoute. Les mails sont, je passe par un contrôle policier totalement illégal. Les communications sont surveillées. Nous sommes dans un vrai état fasciste. Il y a actuellement plusieurs enseignants d'université. Je crois qu'ils sont au nombre de 4 qui font une grève de faim depuis un an parce qu'ils ont été débauchés. Lors du putsch, il meurt. Il meurt. Deux enseignants, aujourd'hui, ont perdu 35 et 40 kilos chacun. Ils attendent la mort. Et il y a des gens qui se suicident parce qu'ils n'ont pas supporté d'être traités de putschistes, d'être traînés devant la justice et ils ne supportaient pas l'idée de qu'ils soient traîtres à l'État, etc., etc. À un moment donné, après le putsch, ils ont décrété qu'ils allaient faire un cimetière de traîtres à la patrie, sans nom, sans rien du tout, en dehors d'Istanbul, pour que leurs cadavres ne se mélangent pas avec la terre des autres, qui sont des bons citoyens. N'importe quoi. Enfin, ce projet a été retiré grâce aux efforts des journalistes. Mais c'est inimaginable ce qui se passe en Turquie. Ça dépasse l'entendement, ça dépasse toute logique, ça dépasse toute conscience, ça dépasse... C'est n'importe quoi, nous sommes dirigés par des fous. Sanma bu sevgimiz, sence ay kara, ne dertler bıraktın, öf öf... L'ambiance générale à Istanbul, c'est comme si ça dépendait d'un coup de chance de savoir si on est convoqué ou pas, si on est en prison ou pas. C'est pour ça que vous n'avez aucune garantie de ne pas être inquiété, même si vous savez parfaitement que vous n'avez commis aucun crime ni rien. Et le pire de toute façon, c'est qu'il y a des gens qui font de la prison pendant plus d'un an et qui sont relaxés après, et contre qui on n'a strictement rien trouvé, et on le dit sans problème, et ils ont été interdits de sortie, ou carrément en détention provisoire lors du procès qui dure un an. Je connais des gens qui ont perdu un an de leur vie, loin de leur famille, leurs enfants, etc., alors qu'ils ont été relaxés. Le droit, comme on nous l'a appris à la fac, ne fonctionne plus.
Il y a, vous savez, quelques mois où j'avais des doutes. Je me disais, oui, c'est une tentative de coup d'État qui a servi le gouvernement. Et chaque jour, il y a un détail qui s'ajoute. Aujourd'hui, je suis catégorique. Tout cela n'était qu'un scénario préparé par je ne sais qui, je ne vais pas prononcer de nom, mais qui a servi ce gouvernement à mettre la main sur toutes les institutions, aussi bien juridiques, aussi bien militaire, aussi bien policière, aussi bien éducative, parce que depuis le ministère de l'Éducation nationale est devenu un ministère de l'Éducation nationale qui ne voulait pas lire l'Iran, par exemple. La Turquie a changé de camp et elle est tombée dans un régime qui nous emmène pas à pas vers un fascisme religieux.
Maintenant, ce que ça a changé après ça, c'est que ça m'a quand même... Enfin, c'est pas que ça, mais disons que tout ce qui se passe successivement en Turquie, toutes ces nouvelles hyper violentes, ça a tué ma dernière part d'insouciance, quoi. Je me suis sentie hyper lourde l'année d'après. Une sorte de gravité.
Le coup d'État en Turquie, c'est quelque chose qui a changé notre vie drastiquement. Puisqu'on est parti de Turquie, on est venu se réinstaller ici, on a commencé, même si on est dans une région que moi je connais, avec ma famille qui est proche, etc., et un milieu que je connais, c'est pas ce qu'on avait en tête, nous, de faire. Donc ça nous a imposé un changement qu'on n'avait pas forcément prévu de faire. Donc ça a changé notre vie quand même. It changed our life.
Mm-hmm. Je me suis sentie coupable pour moi. C'est très, très, très, très difficile. Tu sais, ton famille, ton ami, c'est dans une bizarre condition, économiquement, politiquement, etc., etc. Et tu arrives en France, c'est difficile aussi, mais c'est différent. Pour moi, c'est vraiment important... d'être capable d'aider, je vais mieux ici et je peux aller là-bas, aider les autres.
Même ici, quand j'ai entendu un avion qui passe ou un hélicoptère qui passe, même toujours, je me sens pas bien. Je me dis toujours qu'est-ce qui se passe. Et j'ai vu des tanks dans mes rêves, je ne sais pas pour combien de mois. J'étais au bord de la mer, dans un endroit que j'aime bien, et il y avait des tanks qui arrivaient soudainement. Quelqu'un que j'aime beaucoup m'a dit une phrase que j'aime bien, qui est « Quand la sonnette de la porte retentit le matin, ce qu'on attend, c'est soit la poste ou quelqu'un qui ramène le journal ou du lait. » On peut dire que c'est un pays où il y a la démocratie. Et quand la sonnette de la porte retentit le matin et on n'est pas sûr ce qui nous attend, voilà. On ne peut pas parler d'un pays où il y a démocratie. Et j'espère que Turquie serait la première adoption, pas la deuxième. Mais ce n'est pas évident pour l'instant de dire que c'est le cas. Mais j'espère que les choses vont s'améliorer. Aramıza girmiş dağlar denizler. Gelemem diyorum, öf öf, sen gel diyorsun. Kar yağmış yollara, örtülmüş izler. Une certaine nuit d'été. Un documentaire d'Alice Fargier et Céline Ters. Prise de son, Chantal Nouvelot, Amandine Grévose. Mixage, Bruno Mourlan. Merci à Judith, Florent et Laure.
Creation on Air, attaché d'émission, Shushan Djergaian. Coordination, Irène Omelianenko. Sen buluyorsun.
Sanma bu sevgimiz sence ay kara, ne dertler bıraktı.
Cette émission est disponible en podcast un an et réécoute à vie sur le site de France Culture. La semaine prochaine, mercredi à 23h, Making of d'une radio performance réalisée au festival Longueur d'onde par Andrea Cohen, Diego Loza, Véronique Labandour. Jeudi, Mission Slow par Thomas Guillaume-Bataille et Gilles Mardi-Rossian.